je vous ai dit, le Concile Vatican II. Je vous mets 5 minutes de ce film et après on en parle. Ça va? C'est pas trop fort? Comme?
Trop fort.
Trop fort. Mais ça s'est arrêté là?
Chaque constitution porte le nom des deux premiers mots du texte. Ici, la constitution sur l'Église, appelée en latin Lumen Gentium.
Lumen Gentium a démontré, je reprends l'expression de collégialité, que les évêques, dans leur ensemble, forment vraiment et le corps qui est au service du peuple de Dieu, et les évêques unis au pape. Avant tout, c'est le peuple de Dieu. Et alors, la révolution copernicienne était dans le texte même. On a inversé le rôle, la place des chapitres. On parlait d'abord des évêques et puis après du peuple de Dieu. Alors là, on est arrivé, à force de discussion, au contraire, à parler d'abord du peuple de Dieu, un chapitre sur le peuple, et puis après, de parler des évêques qui sont au service du peuple de Dieu.
Résumant en nos personnes et en nos fonctions l'Église universelle, nous déclarons œcuménique ce concile.
Le décret sur l'œcuménisme, qui aurait été impensable comme tel, 20 ans avant le concile, impensable. Et c'est plus qu'un texte, vous allez dire, d'enseignement sur les relations entre chrétiens. Le décret sur l'œcuménisme est un acte. C'est un engagement de l'Église catholique.
Pour la première fois dans l'histoire, l'Église romaine entend entreprendre cet énorme effort, cet énorme travail de réflexion, de prière et de rénovation que représente ce concile, en quelque sorte devant témoin.
Ce qui m'a frappé et réjoui beaucoup, c'était que les pères des conciles tiennent très sérieusement notre présence comme étant un témoignage. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement touchés par cette expression carissimi, delectissimi observatores, mais nous sentons que notre présence signifie quelque chose de beaucoup plus sérieux pour les pères de l'Église.
Pensez au sort qui a été réservé dans le passé aux non-catholiques par certains conciles. Eh bien, tous les matins, quand je nous vois occuper nos places, qui sont des places d'honneur en face des cardinaux, je me rends compte du changement radical qui s'est produit. Et enfin, malgré tout ce qui continue, évidemment, à nous séparer, pas d'illusion, je vois un signe plein de promesses dans le fait que dans tous les débats, les membres du Concile sont préoccupés par le renouveau de l'Église catholique et qu'ils placent le problème œcuménique dans cette perspective.
Nous avons retrouvé, sous les voûtes de Saint-Pierre, des évêques que nous connaissions, en particulier des évêques d'Amérique latine. Et puis, il faut le dire, le bar qui est là aussi, sous ses voûtes, et où on va de temps à autre se rafraîchir, se détendre, nous a permis de connaître pas mal d'évêques. Et donc, nous sommes mis à les inviter chez nous. Et nous n'avons pas trop des deux repas par jour, du midi et du soir, pour recevoir 4, 5, même est arrivé jusqu'à 8 évêques par repas dans notre petite fraternité à Rome. Et là, nous poursuivons un dialogue.
Quand solennellement, le pape et tous les évêques s'engagent à travailler pour l'unité visible de l'Église, s'engagent. Ça dit quelque chose. Ce ne sont pas des paroles, seulement.
Historique aussi, le fait que pour la première fois, cette semaine, des femmes ont été admises officiellement à siéger au concile.
Mademoiselle Lionel fut l'une des femmes auditrices invitées au concile. Elle est la fondatrice de l'Action catholique indépendante en France.
Parce que le pape a invité les femmes au concile.
L'invito del Papa al Concilio sottolinea il ruolo importantissimo che le donne occupano nell'attuale società. Oggi esse sono presenti nelle fabbriche, negli uffici, nelle professioni liberali, persino al governo.
Chi dit église ne dit pas simplement les clercs ou les gens en soutane ou en robe, mais les chrétiens, ils sont là partout, n'est-ce pas, où la vie du monde existe. Tandis que nous, nous sommes un petit peu, si vous voulez, dans nos chaires, nos hôtels, nos presbytères, nos couvents. Enfin, on n'est pas quand même isolés du monde. Mais nous n'avons pas cette espèce de contact direct que les laïcs ont pu attendre.
Paul VI profitera des intercessions du Concile pour effectuer plusieurs voyages.
Bon, on peut. Donc, je vous ai mis juste quelques extraits qui ont été un peu raboutés de ce DVD. Donc, qui fait 1h30, hein, le DVD. Donc je vais le redéposer là-haut, le DVD, et il est en vente à la procure, d'après ce que je sais. C'était des émissions qui avaient été faites pour le jour du Seigneur. Et donc, ce que je trouve intéressant... Ce que je trouve intéressant dans ce DVD, c'est que on voit une ambiance. On voit qu'à la fois les années 60 du XXe siècle, donc c'est très tard dans l'histoire de l'Église, on a déjà 19 siècles d'histoire de l'Église, ça fait moins d'un siècle, et vous voyez aussi le monde comme il a changé, mais c'est un monde qui est en pleine évolution. Ça ne fait pas 10 ans qu'on met des caméras au Vatican, donc le Concile a une façon de vivre dans le monde de l'époque. Vous avez vu les tenues des gens de l'époque, les voitures sur la place Saint-Pierre. Vous avez vu les images en noir et blanc, c'est celles qu'on avait à l'époque, mais on en avait. Après ça, vous avez vu cette foule d'évêques en grande tenue dans Saint-Pierre. Vous avez vu peut-être que les frères de Thésée, ils sont en aube quand ils sont dans Saint-Pierre, alors que quand ils parlent dans l'interview, ils sont en civil. Ils vous parlent de cette amitié qui se crée. Et je vous disais que l'ex-Orandi et l'ex-Credendi, rappelez-vous que le jour des obsèques de Jean-Paul II, Roger Schutz, qu'on a vu là, le prieur de Thésée, a reçu devant les caméras du monde entier la communion des mains du cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore pape, mais qui allait le devenir trois ou quatre jours après. S'ils auraient pu faire ça, c'est parce qu'ils avaient pris combien de fois un pot ensemble pendant le concile. Alors, il faut voir que tous ces évêques que vous avez vus, ils étaient très, très impressionnés, parce qu'ils étaient là pour dire la doctrine de l'Église. Et les pauvres évêques, ça faisait 15 ans qu'ils se contentaient de confirmer, de baptiser, de régler, de savoir si le père truc allait aller dans la paroisse Saint-Machin. Et donc, ils se disaient qu'ils étaient un petit peu loin de leurs études de théologie. Donc, ils avaient tous embarqué leur secrétaire théologique, quoi. Et donc, Ratzinger était le secrétaire de son évêque. Ratzinger était un très grand théologien. Le cardinal Congar, que vous avez vu là, le dominicain, était le secrétaire d'un évêque. Ils avaient tous ramené le théologien de service, là, qui leur faisait leur pompe, hein, alors, qui leur décryptait les textes qu'ils avaient à travailler. Donc, tous ces théologiens de l'ombre ont en fait beaucoup fait le concile. Et il pouvait être très jeune. Ratzinger était relativement jeune, comme l'était frère Roger. Ils étaient tous les deux germanophones. Combien de fois ils sont allés prendre un pot ensemble, alors que Ratzinger était un homme austère. Mais voilà, donc toute une ambiance. Après ça, c'est aussi l'ambiance des années 60. L'ambiance des années 60, c'est pas du tout la nôtre. C'est un monde optimiste, les années 60. On est dans des problèmes qui sont ceux de la guerre froide, mais on se dit qu'on va s'en sortir. le problème numéro un, c'est celui de l'Interpol. On commence les décolonisations. Donc, tous ces évêques sont presque tous blancs, mais on commence à en voir quelques-uns d'Africains et d'Asiatiques. Et on se dit, ben, c'est une question de génération, mais on va y arriver. Donc, on n'est pas. On se rend compte qu'ils sont presque tous européens, hein, ou nord-américains, latino-américains, mais on sait qu'on est sur la bonne voie. Et puis, donc, on se dit que la guerre froide, bon, on va bien finir par s'en sortir. C'est le moment où on se dit que. Où Kennedy dit qu'on va aller sur la Lune, ça. On y croit. N'oubliez pas que dans le même discours, il dit dans 10 ans on ira sur la Lune et on aura vaincu la faim dans le monde. Hein? Bon. Il n'y en a qu'un des deux qui s'est réalisé et ce n'était pas celui qu'on pensait le plus difficile à l'époque. Donc, etc. Donc c'est une ambiance qui est plutôt optimiste. On n'a pas encore, par exemple, d'inquiétude environnementale. Ça n'existe pas encore dans les années 60. Et donc, les textes vont s'en ressentir. Alors, je reviens sur mes textes du Concile. Et. Alors, je vais sortir. Excusez-moi, bon, voilà. Il faut que j'aille dans mon ordinateur à d'autres endroits. Bon, lui, il veut bien partir. Oui. Alors. Bon, j'étais là. Alors, les textes du Concile Vatican II, je vous ai dit qu'un texte extrêmement important pour nous, c'est cette fameuse constitution dogmatique pour l'Église. Et donc, j'ai mis ici le. Attendez, je vais vous mettre en diapo, ce sera plus joli pour vous. Et pour moi. S'il veut bien. Salut. Voilà. Donc, ce texte, il s'appelle Lumen Gentium, son titre. Lumen Gentium, c'est la lumière des peuples. Et attention, la lumière des peuples. Là, il y a aussi une révolution, parce qu'avant, l'Église disait qu'elle était elle-même la seule qui pouvait. C'est le Christ qui est la lumière des peuples. Et finalement, qu'est-ce que souhaite le Concile ? Réuni dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le village de l'Église. Donc vous voyez que elle veut répandre la lumière, mais elle n'est plus dans une visée d'annexer. Et elle définit ce qu'elle est. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, donc ça c'est votre dernier TD et l'avant-dernier cours, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Et donc, elle dit ce qu'elle est. C'est extrêmement important parce que c'est la première fois qu'un concile dit ce qu'est l'Église. Ça fait 20 siècles, mais finalement, les conciles du premier siècle, des premiers siècles, les grands conciles, ils ont défini l'Église comme une sainte catholique et apostolique, enfin ils l'ont affirmé, mais ils ne se sont pas trop penchés sur l'Église, ils étaient beaucoup plus sur la définition du Christ, etc. Eux, ils étaient en marche pour la construire et l'inventer. Puis après, les grands théologiens du Moyen-Âge. De toute façon, le Moyen-Âge vivait en ce qu'on appelait en chrétienté. Je ne vais pas vous dire le monde entier était chrétien, mais le monde entier de saint Thomas était chrétien. Il y avait quelques musulmans dont ils savaient qu'ils étaient les infidèles. Mais pour saint Thomas, le monde était chrétien et donc il n'avait pas trop à s'interroger sur l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'interroge pas sur l'Église et qu'il n'en parle pas, mais c'est disséminé dans son œuvre. il n'y a pas de traité sur l'Église dans saint Thomas. Puis après, vous arrivez à la période de la Réforme. Alors là, c'est la période où, si les catholiques disent blanc, les protestants disent noir, et si les protestants disent gris foncé, les catholiques vont dire blanc cassé. Hein. Donc, ça signifie que sur la question de l'Église, finalement, on n'est que dans la défensive. Non, c'est nous qui avons la vraie doctrine de l'Église. Là, on arrive à un effort théologique sur l'Église, parce que c'est enfin mûr dans l'Église de réfléchir sur l'Église. Donc c'est important, et c'est pour ça que ça va être une de nos sources pour travailler sur l'Église. Et donc, vous avez vu au Concile, là, dans le film, en plus des deux décrets dont des deux constitutions dont je vous ai parlé sur l'Église, vous avez le décret sur l'œcuménisme, vous allez avoir le décret sur les religions non chrétiennes et le décret sur la liberté de penser, qui sont aussi fondamentales pour la façon de se voir en Église. Bon, puis vous avez d'autres choses comme la constitution sur la liturgie, la constitution de Iverboom que vous avez dû voir dans le premier cours l'année dernière, qui sont aussi des textes importants, mais qui sont moins pauvres. Alors, maintenant, il y a un problème, c'est quand je dis Église, de quoi je parle? Ça, c'est un terme qui est très polysémique. Polysémique, il y a plusieurs significations, suivant où je me situe. Si je parle de l'église Saint-Thomas d'Aquin, qui est devant la porte, je ne mets pas de majuscule. Et c'est un bâtiment, je crois que là, on n'a pas trop de problème. Après ça, il y a, quand je vais parler de l'Église avec un E majuscule, ou des églises, je vais avoir plusieurs sens possibles, y compris pour le théologien. Déjà, je vous l'ai mis, est-ce que c'est au singulier ou est-ce que c'est au pluriel? Alors, l'Église, j'ai mis le mot allemand, le mot anglais, Kirche, Church. Une des premières définitions, ce sont ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce que, en fait, le Seigneur, c'est Kyrios en grec, et que donc le mot Kirche, Church, il vient de cette racine, Seigneur. Le mot église, il vient de la racine ecclesia, qui veut dire, c'est un terme politique du monde grec, qui veut dire ceux qui sont convoqués pour l'assemblée. Donc, c'est quelque chose qui est installé dans la démocratie grecque. C'est les citoyens qui sont convoqués pour être ensemble. Donc, c'est tous ceux qui sont appelés, tous les citoyens. Et là, c'est tous ceux qui appartiennent au Seigneur, dans la racine germanique. C'est important parce que ça signifie que ceux qui appartiennent au Seigneur, d'abord, j'ai mis Église du ciel, Église de la terre, c'est-à-dire appartiennent au Seigneur des vivants et des morts, mais surtout, qui suis-je pour pouvoir dire, toi tu appartiens au Seigneur et toi tu ne lui appartiens pas. Donc, c'est quelque chose de à la fois de précis et à la fois de qui se refuse à nous dire combien on en a. Dans l'Ancien Testament, il y a David qui essaye de recenser son peuple. Or, c'est un péché et du coup, il lui arrive je ne sais plus quel malheur parce qu'il a provoqué le Seigneur en recensant son peuple, en voulant savoir et combien il a de sujets. Bon, alors ça, c'est l'Église, et c'est une Église qui est très théologique, celle-là. C'est celle, finalement, qui est sans doute une sainte catholique et apostolique. Après, vous allez avoir les églises, que j'écris au pluriel, qui sont les formes institutionnelles existantes dans l'histoire. En théologie, on dit les églises historiques et qui existent. et qui sont des visibles pour le sociologue, pour l'historien, etc. Alors là, vous avez l'Église catholique romaine. J'insiste beaucoup pour dire que 99,95% des catholiques sont latins. C'est notre cas, je pense, pour la plupart d'entre nous. Mais qu'il y a également 23, 24 églises catholiques orientales qui font partie de la communion romaine et qui sont très orientales. Et donc, même au cœur de l'Église romaine, il y a de la diversité, même s'ils sont très peu nombreux. Vous avez l'Église orthodoxe ou les églises orthodoxes, puisque les orthodoxes sont structurés en églises autocéphales. On reviendra sur l'orthodoxie au moment de faire un cours sur les églises, non, enfin, sur l'ensemble des églises chrétiennes et sur l'œcuménisme. Simplement, sachez que les églises orthodoxes sont actuellement dans une situation de crise gravissime, qui a eu une rupture entre Moscou et Constantinople. Les orthodoxes étant des gens très lents, avec des allées venues, je ne peux pas vous dire si ça va durer 50 ans ou si c'est un schisme qui va s'installer. Donc, mais ça va mal dans les églises orthodoxes. Et puis vous avez les églises issues de la Réforme, qui sont très très nombreuses. Peut-être 45 000. Oui, oui, on est là. Hein. Je sais que j'ai lu une thèse qui consistait sur la question des pasteurs, de la vie quotidienne des pasteurs, qui était une thèse faite par un pasteur français qui a interviewé des pasteurs de 45 églises différentes seulement en France. Donc, seulement en France. Donc c'est très très multiple. J'utiliserai en général pour les églises protestantes le terme américain de denominations, parce qu'il n'y a pas d'équivalent français qui indique les différentes églises protestantes. L'intérêt pour eux, c'est qu'ils estiment être une église en multiple denominations. Ah non, ça dépend. C'est très structuré, vraiment. Il n'y a que l'Église latine. Il ne faut pas oublier qu'on est des descendants des Romains, donc on est des descendants des juristes. Et les autres, ils ne sont pas juristes. Il n'y a que les latins qui sont juristes. Hein. Donc, oui.
Les églises évangéliques,
elles font partie des multiples denominations. En gros, vous avez un tiers que les Américains appelleraient la mainline, c'est-à-dire les églises, celles en français on a l'expression du protestantisme austère, qui est une expression très française, qui sont des gens plutôt intellectuels, avec d'excellents théologiens. Kuhlmann, que vous avez vu par exemple, c'est un exégète luthérien. Les calvinistes à l'origine sont aussi de ces mainline. Et les anglicans sont plutôt dans la mainline. Et puis vous avez la prolifération des églises évangéliques qui représentent à peu près deux tiers du protestantisme, qui sont en pleine expansion et qui sont beaucoup plus floues et qui sont beaucoup moins structurées. J'en profite pour dire que le Concile et en général les écrits romains n'utilisent pas le terme église pour les protestants. Ils utilisent le terme communauté ecclésiale, alors qu'ils utilisent le terme église pour les orthodoxes. En revanche, le cardinal Gasper, dont je vous ai parlé avec son beau gros livre là, il utilise le terme église pour les protestants. Et il était quand même préfet de la congrégation pour l'unité des chrétiens. Donc je pense que c'est une autorité suffisante pour que je me permette de dire église. Oui.
On utilise également réformée et protestante ?
Alors, en France, quand on parle de l'Église réformée, c'est en général des calvinistes. Mais c'est local, je crois. Oui. Mais maintenant, c'est l'Église protestante unie et les réformés et les luthériens se sont rejoints. Ça fait 5-6 ans, je dirais. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis l'Église réformée. Quand j'ai écrit ça, elles n'étaient pas encore unies. Il faut que je corrige ma dia. Excusez-moi. Donc, à force de reprendre la dia, tous ceux qui sont issus de la réforme.
Donc il y a l'Église protestante et l'Église réformée et luthérienne qui sont réunies.
Non, en France, je vous dis, il y a 45 000 denominations dans le protestantisme. En France, il y a plusieurs grosses églises protestantes et dans nos régions, en Alsace ou ailleurs, il y en a d'autres qui sont presque aussi grosses. Mais sur Paris, la plus importante, c'est l'Église protestante unie. Parce que les autres sont très éclatés. C'est pas forcément les plus nombreux des protestants en région parisienne. Parce qu'en banlieue, il y a plein d'églises avec très peu de paroisses, voire une seule. Plein de paroisses, ils n'appellent pas ça des paroisses. Ça dépend lesquelles. C'est compliqué. On reviendra à ça. Et puis du coup, je reprends bien la dose pour m'actualiser. Ça bouge tout le temps. Bon, après ça, quand vous dites l'Église, quand on dit l'Église permet ça, permet ci, l'Église interdit, l'Église dit que, et tout, en général, on parle Église catholique romaine quand c'est pas la hiérarchie. Donc, après ça, l'Église, ça peut être votre paroisse, ça peut être le diocèse. Donc, il y a plein de multiples significations. Alors moi je vous propose là de réfléchir deux petites minutes à qu'est-ce que c'est pour vous. Comment vous identifiez ça? Quand vous dites l'Église, à quoi vous pensez? À l'institution.
Est-ce que c'est la communauté chrétienne?
Et laquelle? La paroisse, le territoire,
le diocèse,
l'énoncé des dogmes,
l'énoncé des dogmes,
l'église, kirche, church.
Ouais.
Qui appartient au Seigneur.
Voilà, c'est aussi une définition. Donc, vous voyez qu'on a plein de représentations. Et pour moi, c'est extrêmement important de se dire que le mot Église, il n'est pas enfermé dans une seule définition. Parce que ce serait enfermer le peuple de Dieu. Vous voyez? Et que il est sous la mouvance de l'Esprit.
Et c'est un peu la vie des règles de la foi, je trouve.
Et voilà, la vie des règles de la foi, la vie des hommes, la vie des hommes qui essayent de suivre Dieu et qui font un peu comme... qui inventent sous la mouvance de l'esprit, dans lequel de temps en temps il y a un petit Satan qui vient se mettre et qui aime bien... C'est le diviseur, hein, Satan. Et donc, qui aime bien mettre un peu, mais des fois aussi, à force de vouloir l'unité, on a envie de faire Babel, d'avoir des belles constructions, bien, et hop, l'Esprit Saint vient mettre un peu de désordre, histoire qu'on ne prenne pas possession du peuple de Dieu. Étant une institution, étant un droit canon, etc. Voilà, donc, l'importance de garder... cette polysémie, ces multiples sens du mot église, et de se rappeler que quand on va parler de l'église, on parle de tout ça. Je voudrais maintenant, je vous ai mis sur le plan les églises vues de l'extérieur. C'est intéressant parce que là, vous avez, si vous allumez la radio, on va vous dire l'Église a dit que, l'Église... Bon. L'Église, les chrétiens qui vivent en église, avec un S ou sans S, sont visibles, sont une réalité de l'histoire. C'est quelque chose qui est plus préhensible, qui est plus visible, plus qu'un sociologue, un historien peut voir. C'est pas la Trinité qui reste du domaine de la théologie. Vous voyez ? Alors, ce qui signifie que nous, chrétiens, on va réfléchir théologiquement en Église, mais on ne va pas être les seuls à penser l'Église. Vous allez avoir des sociologues, vous allez avoir des ethnologues, vous allez avoir des historiens qui vont dire « Ah ben l'Église, c'est ça l'Église !» Et ils vont nous dire des choses de nous-mêmes. Hein ? Ils font partie au dire des hommes qui sommes-nous. Si on ne les écoute pas, si on ne les entend pas, ça veut dire qu'on se bouche les oreilles. Ça ne veut pas dire qu'il faut avaliser ce qu'on entend de l'extérieur, mais ils sont là pour nous interpeller, pour nous aider à progresser dans notre réflexion. Et donc, il va falloir entendre tous ces journalistes, tous ces sondages, tous ces trucs sérieux, ces trucs moins sérieux, qui vont parler de nous. Et c'est pas toujours des choses qu'on a envie d'entendre. Mais ça fait partie de la réflexion d'être au courant du contexte, de ce qui se vit, de ce que vivent les hommes d'aujourd'hui et de l'image qu'on renvoie. Donc, on va avoir à se mettre vu de l'extérieur. Je voudrais rappeler que dans ces ouvrages qui viennent de l'extérieur, il y aura des choses qui sont de l'ordre du journalistique, qui sont donc de l'ordre de plus de l'émotionnel, et qui manquent de recul, qui disent quelque chose de la société et de l'Église dans la société. Et vous avez des ouvrages, des écrits, qui sont de l'ordre du scientifique, qui sont des écrits de sociologues, d'ethnologues, d'historiens, qui se veulent avoir du recul. Après ça, pour en avoir lu beaucoup, c'est pas toujours aussi vrai que ça que l'historien qui se dit historien a du recul, et certains journalistes sont capables de recul. Mais globalement, c'est ça. En France, et ça n'est pas vrai en milieu anglo-saxon, le scientifique se veut méthodologiquement athée. Ça ne veut pas dire qu'il est athée, mais ça veut dire qu'il se veut athée dans sa méthode. C'est moins vrai de l'anglo-saxon. Ce qui fait que la frontière entre théologie, par exemple, et sociologie religieuse est très nette en France, elle l'est moins dans les pays anglo-saxons. En Allemagne, c'est aussi assez net. Donc quand je dis méthodologiquement athée, ça ne veut pas dire que le scientifique est athée. Hein. Ça veut dire qu'il fait comme s'il l'était quand il travaille. Voilà. Donc tout ça, ça va quand même nous dire des choses de l'Église. Et en particulier, ils vont nous aider à analyser notre contexte. Alors, notre contexte aujourd'hui, début du 21e siècle. On est dans une situation qu'on considère comme de crise. La crise, au sens étymologique du terme, c'est un moment où les grands équilibres se reconfigurent, où ce qui coulait de source est remis en question. Et donc, c'est un moment d'inconfort. C'est pas forcément à lire uniquement de façon négative, parce qu'on peut penser que l'Esprit Saint est au cœur de la crise, mais vous avez des périodes dans l'histoire du monde et peuple où on évolue lentement, et des moments où on évolue vite. On est dans une de ces phases où on évolue vite. On est dans un monde qui s'individualise. Vous apprendrez bien. Donc, tout ce qui est institution, tout ce qui est reçu de ses parents, de la société, etc., on le remet en question. Et chacun veut répondre lui-même à ses propres questions. Ça signifie que c'est épuisant. Oui. Pensez à ces jeunes couples. Je dirais que mes parents, quand ils se sont mariés, on leur avait dit « Vous êtes mariés pour la vie, point. » Ces jeunes couples, ils ne savent même pas, ils sont obligés d'inventer la fidélité, qui est un mot qu'ils ne comprennent même pas. C'est beaucoup plus fatigant que de rentrer dans un moule, même si c'est beaucoup plus... Il y a plein d'aspects positifs à ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est épuisant. Donc, c'est un monde où les individus n'ont pas de certitude. Ils n'ont pas de repères. Ils en ont, mais ils sont obligés de les choisir. Ils en ont tellement qu'ils, comme on dirait, ils ne savent pas quel sens se vouer, même s'ils n'utilisent pas un terme ancien. Les appartenances ne sont pas données. Avant, Jean-Sébastien Bach était fils de musicien et tous ses enfants étaient musiciens. Ça ne l'a pas empêché d'être un génie, mais il avait, entre guillemets, sa carrière toute tracée. Et il était musicien officiel d'une paroisse luthérienne. Son père l'était et ses enfants l'étaient, le sont devenus. C'était clair. Donc il n'y avait pas à remettre en question le fait qu'il était luthérien et qu'il était musicien. Voilà. Bon. Il n'y a plus beaucoup de nos enfants qui savent, quand ils naissent, comment, qu'est-ce qu'ils font. Donc, toutes les institutions sont fragilisées, et il n'y a pas de raison que l'institution ecclésiale le soit moins que l'école, l'État, la justice ou la diplomatie. Donc, voilà. Et, en revanche, je vous parlais tout à l'heure de l'ambiance méthodologiquement athée des scientifiques, on peut dire que la quête spirituelle est importante aujourd'hui, plus que dans, typiquement au moment du Concile, où il y avait une espèce d'optimisme de la science qui permettait un certain scientisme évacuant la question spirituelle, la question de Dieu, etc., et la question du sens. Parce qu'il y avait un certain optimisme du fait qu'on allait avancer, que la science allait répondre à un tas de questions. On n'en est plus là du tout. Donc, voilà où on est aujourd'hui et où on doit donc travailler dans ce parcours. Alors, je vous distribue cette feuille et j'en profite pendant qu'elle circule. Je vous fais passer le projet du parcours où, donc, on va se trouver dans une église dont nous affirmons qu'elle est une sainte catholique et apostolique quand on récite le credo, dont on dit qu'elle est peuple de Dieu, qu'elle est corps du Christ, qu'elle est temple de l'Esprit. C'est des expressions qu'on retrouve dans le Concile, qu'on retrouve dans les livres de théologie. Donc ça, c'est une église telle qu'on la voudrait théologiquement. On a une église qui est constituée d'institutions. Alors, ces institutions, c'est ce qui nous fait vivre, l'écriture, des dogmes, la liturgie, des sacrements, un droit canon pour l'église latine, des ministères. On n'est pas tout à fait tous d'accord entre chrétiens sur tout, mais on a à peu près tous la même écriture, à quelques écrits près. On a tous une liturgie, elle n'est pas tout à fait la même. Les dogmes, Bon, ça dépend lesquels. L'Immaculée Conception, on n'est peut-être pas sûr de l'avoir tous, mais la Trinité, tous les chrétiens la partagent. Et ça, donc ça, c'est de l'ordre de la foi, de l'ordre du solide. Et puis, il y a ce qu'on est. Et ce qu'on est au quotidien, mais également avec l'accumulation de 2000 ans d'histoire. Et donc des habitudes prises, des choix faits à un moment, parce que c'était dans un certain contexte, et qu'après, on sacralise peut-être, on ne sait pas si c'était un choix, si l'Esprit Saint nous a guidés pour un siècle ou s'il nous a guidés pour 25, alors du coup, à tout hasard, regarde, je suis caricaturale. Et le mystère de l'Église, c'est-à-dire l'objet de foi, puisque je vous ai dit que l'Église est objet de foi, ben, il circule quelque part là. Donc nous, on va un peu interroger tout ça pour essayer de tourner autour du mystère de l'Église et l'approcher un peu plus. Alors, pour ça, j'ai fait un plan que vous avez sur la feuille que je vous ai distribuée du parcours, donc, aujourd'hui. Et je commence par vous dire ça. Pourquoi ? Parce que, un, j'espère que vous aurez des questions, et si vraiment vous me déstabilisez trop par vos questions, je change mon plan. Et deux, l'actualité peut aussi nous interroger au point de changer le plan. Je ne le souhaite pas, parce que je pense que ce serait quelque chose d'assez grave, mais on ne sait jamais. Donc, voilà le plan. Alors, je vais commencer par revenir à Jésus, qui proclamait le royaume. D'accord ? Histoire de... Après, je vais prendre quelques grandes étapes du christianisme et je vais choisir en fait de faire de l'histoire plutôt pour montrer ces périodes où des choix ont été faits qui ont engagé l'avenir. Pourquoi au XIe siècle on s'engage dans le célibat des prêtres ? Quel est le contexte ? Et pourquoi, et on le porte encore, vous voyez. Après, je vous ai mis un coup, j'ai intitulé « Vivre dans un monde pluriel ». Je crois que Saint-François Xavier, vous voyez, mort en 1556, rêvait que l'effort missionnaire allait faire en sorte que le monde entier allait devenir chrétien. Plus personne n'y croit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que, malgré tous les efforts qu'on a faits, et Dieu sait qu'on s'est décarcassé, ça résiste. Il faut quand même que notre foi interroge ce pluralisme religieux, cette présence de l'athéisme dans notre monde, qui a l'air irréductible. On a fait des efforts quand même pour évangéliser. Bon, après, je vais parler de la vie en Église. Donc, j'ai mis des titres. D'abord, qu'est-ce qui fait l'unité des baptisés, qui sont tous baptisés prêtres, prophètes et rois ? Qu'est-ce qui fait l'unité et qu'est-ce qui fait la différenciation dans l'Église ? Après, je vais parler de la place de l'Eucharistie au cœur de l'Église. Puis, je vais parler des endroits où on rencontre l'Église. Institutions, les diocèses, la papauté, le droit canon, charisme, tout ce qui est ordre religieux, communauté nouvelle. Et puis, moi, je rajoute événements. C'est des endroits où on voit l'Église. Puis, l'intitulé d'une phrase de l'épître aux Éphésiens, je crois, Ben, on va essayer de parler de la multiplicité, des multiples façons d'être chrétien et des différentes églises qui malheureusement ne vivent plus à l'unité, dans l'unité, mais qui sont actuellement présentes dans le monde, qui sont toutes chrétiennes. Et après, eh bien, je vais faire deux récapitulations sur plus de théologie, un peu théologique, mais voilà. Bien, je crois que ça a à peu près. Non, j'avais encore un petit mot. Voilà, ça, c'est simplement parce que je voudrais que vous digériez un peu et puis que vous vous posiez quelques questions. Alors j'ai mis une petite grille, mais vous n'êtes pas obligé, elle n'est pas obligatoire. Simplement pour que on puisse un peu échanger en début de cours la semaine prochaine. Bon là, il nous reste 3 minutes, on peut avoir des questions à chaud, mais c'est bien aussi d'en avoir après réflexion. Oui.
Concernant l'unité,
oui.
En réalité, bon, bien sûr, il y a, par exemple, dans l'Église catholique, le ministère, le don, oui, etc. Mais même à l'intérieur de l'Église catholique et de l'Église catholique romaine, oui, en réalité, chaque personne, en acceptant parfaitement la partie dogmatique, a une vision absolument unique.
Vous avez pleinement raison. Et l'enjeu, c'est d'accueillir cette diversité et de vivre l'unité.
Et de faire évoluer éventuellement le dogme, les dogmes.
Alors, est-ce que ce sont les dogmes ou est-ce que ce sont les façons de vivre ? Enfin, c'est toujours très compliqué.
Les deux, voilà. Puisque les dogmes peuvent évoluer.
Voilà. Absolument. Donc ça... il faut avancer, donc je l'ai mis assez tard, vous avez vu la question de l'unité des chrétiens dans le parcours. Alors, dans les modifications aussi, il peut y avoir simplement aussi des inversions de date. Je vous préviendrai si je prends ces décisions. En particulier, je dois rencontrer les accompagnateurs de groupe s'ils me disent qu'ils veulent que je fasse tel cours avant telle date ou des choses comme ça.
Ah oui, ça c'est bien.
Voilà, c'est... Quand je les aurai rencontrés, j'aurai peut-être des chiffres.
Juste une précision. Oui. Apostolique, c'est universel ou c'est pas ça?
Apostolique, c'est fondé sur les apôtres. Et ce qui... Katholos, une des façons de traduire Katholos, catholique, serait universel.
Oui.
Alors,
le credo des protestants ne diffère que de ce mot-là.
Et encore, c'est parce que je dirais que normalement ils disent catholique, mais beaucoup de protestants français en particulier, n'oublions pas que les anglicans par exemple disent catholique, ils appartiennent au monde de la réforme, hein. Ils disent catholique, mais parce qu'en anglais on ne dit jamais catholique, on dit toujours Roman Catholic. Et dans la langue française, on a préempté, notre Église a préempté le mot catholique qui appartient à tous les chrétiens. Et c'est cette préemption qui fait que le mot catholique arrache la bouche, à juste titre, de beaucoup de protestants français, et que du coup ils ont traduit universel au lieu d'utiliser le mot historique qui était catholique. Mais dans la plupart des protestants anglo-saxons, du fait qu'en anglais on ne dit jamais catholique tout seul, mais toujours Roman catholique, peuvent dire catholique dans leur credo.
Je me demande pourquoi dans la liturgie de la messe, on n'évoque pas du tout, on ne lit pas du tout les pères. À quel moment voilà, ça s'est figé comme ça et voilà. On ne lit pas les pères.
Alors, on ne lit pas beaucoup les pères, c'est tout à fait exact. Non. Et ils sont présents dans la liturgie des heures, mais encore essentiellement dans l'office qu'on appelle l'office des lectures, qui est vraiment un office qui ne fait pas partie du bréviaire. Le bréviaire, c'est la forme brève de la liturgie des heures. Encore que je crois quand même que si on propose aux prêtres, puis à nous tous, hein, vous trouvez ça sur internet, hein, de lire la liturgie des heures, qui fait partie de la liturgie, je ne sais pas pourquoi les pères, mais également saint Thomas, ne font pas partie de la liturgie. Ouais. Ils existent dans les paroles de certains cantiques. Encore faut-il les connaître. Voilà. Un certain nombre de cantiques, alors pour en prendre un qui est à la mode, parce que d'autres, je vais vous dire, sont passés de mode, mais par exemple, vous connaissez un cantique marial qui s'appelle Regarde l'étoile,
oui.
C'est du Saint Bernard.
Il y a beaucoup de références à eux, de toute façon.
Oui, il y a beaucoup de références. Et nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. C'est plutôt de Augustin. Et puis vous en avez d'autres de cantiques.
C'est pas du tout explicite, je veux dire.
Ah, oui.
Pour le commun des fidèles,
surtout
à la célébration, ça a une
bonne référence. Oui, pour le commun, comme vous dites, des fidèles, c'est difficile. Et puis je dirais presque, moi, Regarde l'étoile, avant que je sache Saint-Bernard, je trouvais que c'était un peu païen, quoi. Hein. Vous voyez que ça faisait un petit peu New Age. Vous voyez, étoile du berger, etc. Vous voyez ? Alors qu'on le puise dans le trésor.
Merci.
Merci beaucoup. Je vais dire à la semaine prochaine avec vos questions.